Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Bienvenue à tous sur cette quatrième édition de l'émission Marque Page. Après la dernière journée radio du 19 décembre où nous avions parlé des contes, nous allons aborder un sujet plus grave et nous allons plonger dans l'histoire pour parler de la littérature concentrationnaire.
Marque Page, l'émission qui interroge notre rapport au livre et à la lecture.
Pour que ce soit clair pour les auditeurs et nous, on va rappeler ce qu'est la lecture concentrationnaire. Il s'agit donc de la lecture d'œuvres relatives aux camps de concentration, écrites par des survivants ou des témoins des camps sur l'expérience concentrationnaire. Maintenant, chacun va présenter rapidement l'œuvre qu'il a lue, ou les œuvres.
Moi, j'ai lu le livre qu'a écrit Primo Levi, qui s'appelle « Si c'est un homme ». Donc, Primo Levi, c'est un Italien juif qui a été résistant et qui était chimiste avant la guerre. Il va donc être arrêté en 1943 à l'âge de 24 ans et déporté à Auschwitz. Il va s'en sortir, il va être libéré, mais il va passer toute sa vie ensuite à se demander pourquoi il a été libéré. Et pour lui, il est primordial d'écrire pour qu'on n'oublie pas l'horreur des camps de concentration, parce que vraiment sa plus grande peur après la guerre, ça va être d'être oublié et que la population oublie Auschwitz. Donc il va écrire ce livre qui est donc une autobiographie où il va vraiment raconter ce qu'il a vécu dans les camps, mais la pression va être tellement forte qu'il va se suicider en 1987.
Alors, moi aussi, j'ai lu « Si c'est un homme » de Primo Levi. J'ai également lu « Être son destin » de Imre Kertész, qui a été publié en 1975. C'est donc le témoignage d'un juif hongrois envoyé dans les camps à ses 16 ans. Et Imre Kertész a reçu pour l'ensemble de son œuvre le prix Nobel de la littérature en 2002.
Personnellement, j'ai pu lire « Elle s'appelait Sarah » de Tatiana de Rosnay. C'est dans cette histoire, on peut suivre deux histoires à l'intérieur. L'une d'une petite fille qui va vivre le Veldiv et toute l'histoire qui va s'en dérouler. Elle va d'ailleurs perdre ses parents. Et de l'autre côté, on va avoir une journaliste de 2002 et qui va faire des recherches sur le Veldiv, qui va aborder cette histoire et surtout ce sujet de la mémoire qui est aussi très important parce que c'est à ça aussi que servent les livres et les recherches, à entretenir cette mémoire et ce souvenir, en l'occurrence dans ce livre-là, du Veldiv.
Alors moi j'ai lu la BD Maus de Art Spiegelman. En fait, cette BD elle retrace les entretiens en fait, entre l'auteur et son père du coup, qui a survécu au camp de la mort.
Pour ma part, j'ai lu La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert. Donc il est paru en 2019 aux éditions du Seuil.
Quant à moi, j'ai lu Sobibor de Jean Mola. Donc là, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va très mal vivre le décès de sa grand-mère. Et donc en fait, suite à ça, elle va découvrir de nombreux secrets que sa grand-mère avait écrits dans un journal. Où en fait, dans son journal, sa grand-mère, elle va raconter tout ce que son grand-père donc, a fait durant dans les camps de concentration à Sobibor, justement.
Et enfin, quant à moi, j'ai lu Les Bienveillantes, écrit par Jonathan Little, paru en 2006. Il s'agit des mémoires d'un personnage fictif, Max Haue, qui a participé au massacre de masse nazi en tant que SS. On suit donc la Shoah via le point de vue interne d'un jeune homme.
Oui. Je voulais ajouter que j'ai également lu Charlotte Delbo, donc Aucun de nous ne reviendra. Et puis Adem a lu un autre livre de Charlotte Delbo.
Le convoi du 24 janvier. Il s'agit donc de notices biographiques enchaînées, très courtes et très secs, qui relatent de la vie des personnes qui étaient présentes avec Charlotte Delbo dans le convoi quand elle a été emmenée dans un camp de concentration.
Et en conclusion, on peut voir qu'il existe énormément de livres différents, de natures différentes, donc des romans, des témoignages, de la fiction et des bandes dessinées notamment, sur le sujet de la littérature concentrationnaire.
Donc au cours de cette émission, on va se demander comment est-ce qu'on peut témoigner de l'expérience concentrationnaire et qu'est-ce qui, du témoignage ou de la fiction, est le plus adapté à la violence de l'expérience? Qu'est-ce qui est le plus touchant, le plus légitime, lequel rend le mieux compte des faits, des émotions?
Et finalement, quelles sont les armes du témoignage et de la fiction?
Alors tout d'abord, on va contextualiser un petit peu. Comment est-ce que ces textes ont-ils été reçus?
Au sortir de la guerre, par rapport à la population, savoir que tout départ, il y a quand même eu un refoulement qui a été assez général. Enfin, les gens, ils voulaient sortir de la guerre, ils en avaient marre d'en entendre parler. Il y avait vraiment l'idée de faire le pas et de passer à autre chose. Et donc, les Juifs qui ont commencé parfois dès la suite de la guerre à écrire, ils n'ont pas forcément eu beaucoup de succès, ils n'ont pas forcément été beaucoup lus, parce que leurs livres étaient très peu achetés.
Simone Veil dira d'ailleurs qu'on n'a pas parlé car on n'a pas voulu nous écouter.
Et malgré tout, les premiers témoignages ont paru assez vite, avec notamment « Si c'est un homme » de Primo Levi qui est sorti en 1947. Et cela illustre bien le besoin de raconter les expériences vécues, malgré parfois des problèmes de culpabilité, etc.
Même à notre époque, dans les années 2000, où tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus informatisé, informés, on peut beaucoup plus s'informer sur la situation. Il y a énormément eu de documentaires et de films, de dossiers qui ont été sortis. Même avec ça, ça reste compliqué, notamment sur le Veldiv, parce que ce sont des moments où, par exemple, la France a eu un impact, ce qui fait que c'est un épisode qui a voulu être, qui a eu énormément d'opposition, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on mêle la France à tout ça, ce qui fait que elle s'appelait Sarah, même si c'est sorti en 2010, a pu avoir également ce rejet de la part du public.
Donc il faut aussi dire que justement il y a la culpabilité qui peut gêner, et il faut aussi ne pas oublier tous les écrits et les témoignages qui ont été écrits justement rapidement après ces événements, mais qui n'ont jamais été publiés, qui ont été écrits simplement par besoin d'écrire ou de témoigner.
De plus, pour des problèmes peut-être un peu plus techniques, à la fin de la guerre, déjà il fallait le temps de tout reconstruire, les maisons d'édition, les presses n'étaient pas forcément en très bon état. Et puis il y a eu une pénurie de papier qui a aussi empêché les survivants, les témoins, de mettre sur papier donc leurs expériences, et après ils ont pu oublier ou... Leur expérience a pu être partiellement déformée, ce qui fait que les écrits parus plus tard peuvent être légèrement modifiés, etc.
Donc maintenant que la contextualisation a été faite, on peut commencer à parler des témoignages. On va commencer par Primo Levi, qui a publié son témoignage en 1947.
Donc Primo Levi, c'est avant tout l'histoire d'un Italien... déporté à Auschwitz-Birkenau dans les années 1940, et qui décrit le plus fidèlement possible ce qu'il a vécu là-bas, avec toutefois certains passages plus de fiction, avec des raccourcissements du temps pour apporter plus ou moins de précision sur des éléments qui l'ont plus marqué que d'autres. Est-ce que quelqu'un veut nous décrire ce livre ? Finalement, dans Si c'est un homme de Primo Levi, donc cette autobiographie, il raconte surtout la vie dans les camps, les conditions absolument inhumaines et de vie. Il va raconter dès le début le passage dans les trains et donc pour vous illustrer cela, je vais vous lire un extrait qui commence maintenant. On ouvrait les portières des wagons, des deux côtés en même temps, sans avertir les nouveaux venus ni leur dire ce qu'il fallait faire. Ceux que le hasard faisait descendre du bon côté entraient dans la chambre à gaz. Ainsi mourut la petite Emilia, âgée de 3 ans. Tant était évidente aux yeux des Allemands la nécessité historique de mettre à mort les enfants des Juifs. Emilia, fille de l'ingénieur Aldo Levi, de Milan. Une enfant curieuse, ambitieuse, gaie, intelligente, à laquelle ses parents, au cours du voyage dans le wagon bondé, avaient réussi à faire prendre un bain dans une bassine de zinc, avec de l'eau tiède qu'un mécanicien allemand dégénéré avait consenti à prélever sur la réserve de la locomotive qui nous entraînait tous vers la mort. Donc là, on voit bien la quantité de détails de Primo Levi, qui a d'ailleurs commencé à écrire avant même d'être sorti des camps, ce qui montre bien que pour lui, raconter et mettre sur papier, coucher tout finalement ses écrits, c'était nécessaire pour raconter ses mémoires.
Alors moi, je n'ai pas personnellement lu le livre, mais par contre, rien qu'à la lecture de cet extrait, je trouve que l'idée de l'écrire précisément, ça montre aussi qu'au-delà parfois des cours d'histoire qu'on peut avoir qui sont très généraux, bah, c'est quand même des gens qui ont vécu un quotidien qui était très très dur, qui était très très marquant, et le fait que vraiment ils rentrent dans des détails comme ça, bah, même nous, ça nous permet parfois de... On prend tous, hein, bah on a déjà. Enfin, c'est ça permet de nous identifier aussi, peut-être mieux de nous projeter aussi dans ce qu'ils ont pu vivre eux.
Après, on parlait de la culpabilité tout à l'heure, et on peut comprendre aussi que peut-être il culpabilise d'être lui descendu du bon côté entre guillemets du train, alors que la petite Emilia dont il parle, elle est morte. Il peut se demander en fait pourquoi lui et pas Emilia, qui pourtant était plus jeune et qui certes selon les critères des nazis. Ne correspondait pas aux personnes qui pouvaient travailler, mais qui peut-être auraient une vie grandiose après.
Et là, cette multitude de détails est notamment permise grâce aux témoignages, puisque finalement, ce sont ses souvenirs qu'il raconte. Toutefois, finalement, même dans la fiction, on peut trouver des petits détails comme ça qui changent toute l'histoire et qui nous permettent de nous rapprocher des personnages, des protagonistes. Et en même temps, souvent, toutes ces œuvres sont écrites à la première personne, ce qui nous permet quand même de nous, comme on disait Chloé, de nous apparenter aux protagonistes et donc de vivre encore plus intensément l'histoire qui nous est racontée.
Oui, j'aurais voulu rajouter que j'ai adoré le livre, mais l'une de mes premières réactions quand je l'ai fini, c'était de me dire que, en fait, c'était totalement le genre d'événements racontés. En fait, c'est ce à quoi je m'attendais quand on m'a dit que j'allais lire de la littérature concentrationnaire. Du coup, même si c'est un témoignage, donc c'est réel, on peut se demander quand même s'il n'y a pas une sorte de canon, enfin quelque chose de des passages obligatoires quand on parle de littérature concentrationnaire.
Pour le coup, je pense, Daphné, que t'as absolument raison, notamment l'appel du matin. Là, dans l'occurrence, dans toutes les œuvres concentrationnaires, on retrouve l'appel du matin lorsque tous les détenus sont emmenés à l'extérieur des baraques, sur la place centrale, qui sont alignés et qu'on appelle leur numéro, en allemand d'ailleurs, s'ils ne réagissent pas, ils sont tués. Et en l'occurrence, cet appel, je pense que Soline va nous en lire un extrait, issu du rapport de Brodeck. Lecture.
Tous les jours, un homme était ainsi pendu à l'entrée du camp. Chacun, le matin, en se réveillant, se disait que ce serait peut-être son tour. Les gardes nous sortaient des cabanes où nous nous entassions à même le sol pour la nuit, nous faisant mettre en rang et nous attendions, ainsi, debout, longtemps, quel que soit le temps. Nous attendions qu'ils choisissent l'un d'entre nous, la victime du jour. Parfois, c'était décidé en 3 secondes. D'autres fois, ils nous jouaient aux dés ou aux cartes. Et nous devions attendre debout, près d'eux, en rang. Parfait, immobile. Les parties s'éternisaient, et au bout du compte, le vainqueur avait le privilège de faire son choix. Il passait dans les rangs. Nous retenions notre souffle. Chacun tentait de se rendre le plus insignifiant possible. Le garde prenait son temps. Puis, il finissait par s'arrêter devant un prisonnier, le touchait du bout de son bâton et disait simplement « du ». Nous autres, tous les autres, au fond de nous, on sentait naître une joie folle, un bonheur laid, qui ne durait que jusqu'au lendemain. Jusqu'à la nouvelle cérémonie, mais qui permettrait de tenir encore. Le dû partait avec les gardes. Il allait jusqu'au portail. On le faisait monter jusqu'au crochet. On lui faisait dépendre le pendu de la veille et ensuite le descendre sur son dos, creuser une fosse et l'enterrer. Puis, les gardiens lui faisaient enfiler le panneau « Ich bin nichts », lui passaient la corde, le faisaient monter en haut de l'escabeau et attendaient que la Zeil Nessesnis arrive. Dit Zeil Nessesnis, c'était la femme du directeur du camp. Elle était jeune, et surtout, elle était d'une inhumaine beauté, faite d'un excès de blondeur et de blancheur. Elle se promenait souvent dans le camp, et nous avions ordre, sous peine de mort, de ne pas croiser son regard. La Zeil Nessesnin ne manquait jamais la pendaison du matin. Elle arrivait lentement, fraîche, les joues encore rosies par l'eau pure, le savon, la crème, et le vent parfois nous apportait son parfum. Un parfum de glycine, et je ne peux plus depuis lors sentir cette odeur de glycine sans vomir et sans pleurer. Elle avait des habits propres. Elle était impeccablement coiffée, vêtue. Et nous, à quelques mètres, mangés de vermine dans nos haillons, qui n'avaient plus de forme ni de couleur, la peau crasseuse et puante, les crânes rasés et croûteux, avec nos os qui tentaient de nous trouer de toutes parts, nous appartenions à un autre monde que le sien. Elle ne venait jamais seule. Toujours, elle portait dans ses bras son enfant, un nourrisson de quelques mois, enrubanné de jolis linges. L'enfant était toujours calme. Il ne pleurait pas. Parfois, il dormait, mais avec de petits gestes tendres, elle le réveillait. Et lorsqu'il finissait par ouvrir les yeux, gigoter avec ses petits bras et ses petites cuisses, bâiller au ciel, alors d'un simple geste du menton, elle signifiait au gardien que la cérémonie pouvait commencer. L'un d'entre eux lançait un grand coup de pied dans l'escabeau et le corps du chutait, vite, retenu par la corde. La Tsail Nesetnis le regardait quelques minutes et sur ses lèvres venait alors un sourire. Elle ne perdait rien des tressautements, des bruits de gorge, des pieds lancés dans le vide à la recherche du sol, des bruits grouateux, des intestins qui se vidaient, de l'immobilité, enfin du grand silence. Elle posait alors un long baiser sur le front de son enfant, qui parfois pleurait un peu, moins de peur sans doute que parce qu'il avait faim, et réclamait sa tétée, et s'en allait calmement. Les trois corneilles prenaient leur place. Je ne sais pas si c'était les mêmes chaque jour, elles se ressemblaient tant. Les gardiens aussi se ressemblaient tous, mais eux ne mangeaient pas les yeux, ils se contentaient de nos vies. Comme elle, comme la femme du directeur, celle qu'entre nous nous avions surnommée la Tsail Nesetnis, dit Tsail Neslis, la mangeuse d'âme.
Merci beaucoup Soline pour cette lecture. Pour les non-germanophones qui sont parmi nous, er ist nicht, ça veut vraiment littéralement dire ce n'est rien.
Alors justement, ce personnage de Tsail Nesetnis, c'est un personnage particulier puisque c'est un personnage fictionnel au milieu de ce témoignage. Et donc on peut se demander quel est l'intérêt d'ajouter un personnage romanesque dans un témoignage et est-ce que ça modifie la nature des choses ?
Moi je trouve que c'est super intéressant parce que je trouve que souvent, dans tout ce qu'on a eu, les procès de Nuremberg, tous ces procès-là, ça a toujours été que des hommes qui ont été concernés par la responsabilité de la Shoah. Et il y a eu très peu de femmes en fait, qui ont été reconnues coupables, etc. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de mettre en avant des femmes qui sont responsables.
Je trouve ça également intéressant de mêler une femme de fiction qui n'existe pas et des faits qui sont beaucoup plus réels, beaucoup plus poussés dans le détail, qui peuvent nous faire penser à quelque chose de réellement comme un témoignage en fait. Et cette femme qui pourtant n'existe pas et qui pourrait atténuer la véracité du témoignage, on pourrait dire qu'elle atténue en fait ce témoignage qui pourtant pourrait être pur et véridique. En fait, elle ajoute quelque chose en plus. Parce qu'on n'y était pas et on va pas avoir exactement, on ne peut pas ressentir exactement les émotions qu'ils avaient. Et par cette femme, qui est une pure fiction, on peut comprendre exactement, enfin pas exactement, mais disons qu'on est plus proche des émotions et on comprend beaucoup de l'horreur que pouvait être ce moment qui se répétait tous les jours. Et du coup, ce mélange, je trouve très intéressant parce que... c'est pas évident que cette femme n'existe pas. Ça a été très bien amené et que pour énormément de personnes, ils vont pas forcément voir qu'elle n'existait pas et justement, elle va pas ternir, on va dire, le témoignage comme le pourrait l'être un ajout de fiction mal cadré, on va dire.
Moi, je trouve que ajouter également l'enfant, ça renforce un peu la entre guillemets, sensibilité du lecteur parce qu'on est forcément plus touché quand il y a un enfant. Et pour rebondir sur ce que disait Chloé, ça montre à quel point finalement une femme peut être cruelle malgré les stéréotypes qu'on en fait, enfin qu'on peut en faire.
Personnellement, je voudrais ajouter que malgré la pureté peut-être et l'innocence mal placée qu'ajoutent ces personnages de fiction, il existe quand même des femmes qui ont travaillé pour les nazis. Dans le livre Le lecteur de Stefan Zweig, notamment, on assiste au procès d'une femme nazie qui a assisté, enfin qui a perpétré un massacre absolument abominable. Elle a enfermé avec ses collègues toutes féminines tous les habitants d'un village dans une église à laquelle elle a mis le feu. Enfin, elles ont mis le feu. Et en l'occurrence, on voit que malgré peut-être, les femmes n'étaient pas présentes au procès de Nuremberg parce que la société était patriarcale, on va pas rentrer dans ce débat, mais en l'occurrence, elles n'ont pas pu accéder aux strates supérieures. Néanmoins, elles étaient quand même plus ou moins impliquées aussi dans le régime nazi et dans la société de l'époque.
Par rapport à ça, là, c'est dans les histoires vraies, c'est vrai que les femmes ne sont pas tellement impliquées. Et dans les fictions, mais les pures fictions, même encore d'aujourd'hui, les femmes, elles sont plutôt présentées comme les sauveuses qui vont essayer de sauver les enfants. C'est le cas, par exemple, dans La sage-femme d'Auschwitz. Et donc, c'est vrai que là, ajouter cette femme et montrer sa cruauté, ça montre qu'il y avait quand même des femmes qui participaient à ce processus.
Pour revenir sur ce que peut apporter le fait de mettre un enfant dans une histoire concentrationnaire, c'est vrai que ça attire plus le regard, mais ça peut aussi, quand l'enfant est un peu plus grand, parce que là on parle d'un nourrisson qui n'avait pas, ses pensées ne sont pas expliquées dans le roman, mais on avait d'autres livres qui mettaient qui parlaient du point de vue des enfants, notamment Elle s'appelait Sarah, et dans ce livre on peut voir du coup ce que pense directement Sarah, puisque c'est écrit de son point de vue sur tous ces chapitres qui la concernent. Et ça nous apporte aussi une autre vision du roman, parce que elle a quelque chose d'innocent. Elle comprend pas totalement ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs ce qui va la pousser à faire des erreurs, parce que justement elle n'a pas compris, parce que elle n'a pas toutes les notions. Et c'est quelque chose, cette notion de l'enfant qui ne sait pas, l'enfant qui est dans l'ignorance de la situation. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Il y a même des films comme La vie est belle. Qui en parle aussi, donc c'est quelque chose qui est assez exploité, je trouve.
Pour résumer, moi, ce que j'ai compris, c'est que donc la fiction, ça pourrait être une sorte de passerelle entre nous et le témoignage, et ça permettait de rendre le témoignage accessible à notre univers. Et justement, Léna a lu un conte qui permet de rendre accessible l'univers des camps de concentration peut-être à des personnes plus jeunes.
En effet, donc je peux vous lire un extrait. Le conte présente d'abord une paysanne désolée de ne pas avoir d'enfant. Donc tous les jours, dans cette région lointaine, enneigée, passe un drôle de train. On ne sait pas qui voyage, ni vers où. Donc l'extrait commence maintenant. Le train avance, mais cette fois-ci, en passant, il lui répond. Le train de marchandises, le convoi 49, lui répond. Et non pas d'un signe, mais d'un geste. Pas un de ces gestes accompagnant le jet de ces misérables morceaux de papier froissé et gribouillé à la hâte par une main maladroite, non. Un geste, un vrai geste. D'abord un drapeau a surgi de l'étroite lucarne, brandi par une main humaine ou divine, qui le lâche soudain, et le drapeau vient déposer sa charge, dans la neige, à quelques 20 pas de notre pauvre bûcheronne, qui tombe à genoux, main serrée sur sa poitrine, ne sachant que faire pour remercier les cieux. Enfin, enfin, après tant de vaines prières. Mais la main dans la lucarne se tend maintenant vers elle et d'un doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe de ramasser le paquet. Ce paquet est pour elle seule. Il lui est destiné. Pauvre bûcheronne se débarrasse alors de son maigre fagot d'hiver et, aussi vite que la neige le lui permet, elle se précipite sur le petit paquet pour l'arracher à la neige. Puis, avidement, fébrilement, elle défait les nœuds comme on arrache l'emballage d'un cadeau mystérieux. Alors apparaît, ô merveille, l'objet qu'elle appelait depuis tant de jours de ses vœux, l'objet de ses rêves. Mais voilà que le petit paquet, l'objet à peine défait, au lieu de lui sourire et de lui tendre les bras, comme le font les bébés sur les images pieuses, s'agite, hurle, serre les poings, les brandissant bien haut dans son désir de vivre, torturé par la faim. Le paquet proteste, et proteste encore. Donc l'extrait montre le mélange entre la fiction, l'invention du conte, qui représente l'enfant comme un cadeau divin, et le réalisme historique en même temps. Donc on parle quand même d'un train qui ne s'arrête jamais, de personnes qui sont envoyées dans des convois. Et le conte a cette façon d'édulcorer le récit qui permet une approche plus douce et de toucher donc une population de manière plus globale. En impliquant des personnes plus jeunes pour qu'ils soient déjà sensibilisés à ça.
Alors moi je vais suivre l'idée de Léna sur le fait de pouvoir inclure des personnes plus jeunes. Alors par exemple dans les livres Sobibor, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est on va voir toute l'histoire à travers les yeux d'une jeune fille, d'une adolescente qui va en fait découvrir les atrocités que son grand-père a fait dans les camps, et donc en fait elle va être choquée et jusqu'à en fait, à pousser son grand-père à vivre le même sort qu'il a fait vivre à ces pauvres gens.
Pour rebondir sur, justement, le point de vue, lorsque le narrateur est un une personne, disons, plus jeune, un enfant, un adolescent. On a notamment « Être sans destin », où le narrateur a une quinzaine d'années lorsqu'il est emmené. Et, Daphné, tu veux en parler ?
Oui. Donc, surtout, ce qui est important dans ce livre, pour moi, c'est le souci d'impartialité d'Imri Kertész. En fait, il a essayé de se remettre dans sa peau de quand il avait 16 ans, parce qu'il l'a écrit plus tard. Ça m'a perturbée en un sens parce que à la fin, par exemple, il dit qu'en fait, il était plus heureux dans les camps. Et cette honnêteté, déjà de se remettre dans la peau de qu'il était quand il était enfant, comment il a abordé les camps d'une manière assez légère, enfin. Il n'a pas compris la gravité tout de suite de la situation. Et puis ensuite, d'arriver à s'avouer qu'il était plus heureux dans les camps, ça allait pour moi encore au-delà, par exemple, d'un Primo Levi.
En l'occurrence, ce genre de... lorsque c'est les narrateurs, finalement, nous avouent qu'ils sont plus heureux dans les camps. Emery Kertész n'est pas le seul, je crois, notamment parce que ça les déresponsabilise. Ils ont une routine à suivre tous les jours. Enfin, je fais un petit encart et je vais parler 30 secondes de philo. Sur un devoir sur la liberté, on a lu un texte et justement, dans ce texte, les Allemands nous disaient que ça les avait rassurés. Et de même pour justement l'un des détenus. Au final, au début, avant l'hiver, avant les horreurs vraiment les plus atroces, il trouvait que c'était bien, les camps, parce qu'il n'avait plus aucun choix à faire. Enfin, c'est paradoxal, mais ça existe.
Ah, c'est l'idée de mauvaise foi de Sartre. Hein. On est tout le temps libre, mais quand on a trop de choix et trop de responsabilités, on préfère croire qu'on n'est pas libre.
Chakadi, la radio du lycée Prévert.
On peut enchaîner dans une autre forme de témoignage, donc en abordant Charlotte Delbo, qui est une autrice née en 1913 et morte en 1985, et qui a écrit deux ouvrages qui vont nous intéresser aujourd'hui, Le convoi du 24 janvier et Aucun de nous ne reviendra. On peut commencer par Le convoi du 24 janvier. Il s'agit donc de notices biographiques qui s'enchaînent. Les notices biographiques donc des personnes qui étaient présentes avec elle dans le convoi dans lequel elle était emmenée à Auschwitz et qui sont mortes. Donc ça crée un ouvrage sec et abrupt. On peut lire pour bien représenter ce sentiment. Lecture d'un extrait du convoi du 24 janvier. Auschwitz, numéro 31643. Madeleine Gelslout, elle est morte en mars 1943 de la dysenterie. Ses parents ont appris sa mort par les rescapés du convoi en novembre 1945. Pierre Gelslout a été fusillé au Mont Valérien le 11 août 1942. Il avait 33 ans. Auschwitz, numéro 31742. Aurore Pika est morte à Birkenau le 28 avril 1943, morte de soif. Elle s'est traînée vers le marais aussi longtemps qu'elle a pu. Elle ne tenait plus sur ses jambes quand elle est entrée au rivier. Elle avait les lèvres coupées. Maintenant, on va procéder à la lecture de son autre ouvrage, puisque justement, cette dernière personne, Aurore Pika, est assez particulière dans la vie de Charlotte Delbo.
Aucun de nous ne reviendra, donc c'est une suite de souvenirs de sa vie quotidienne dans les camps. C'est encore différent du convoi du 24 janvier, parce que là, c'est plus romancé, un peu plus littéraire. Enfin, c'est pas aussi précis historiquement. Et l'extrait que je vais vous lire, donc, elle parle de l'une des pires souffrances dans les camps, la soif. En allant au travail, elle trouve de l'eau et... elle voit bien qu'une de ses camarades en a besoin et elle décide de ne pas lui en donner. Donc voilà, je vais lire l'extrait. Je bois. Je bois et je suis mieux. La salive revient dans ma bouche. Les paroles reviennent à mes lèvres, mais je ne parle pas. Le regard revient à mes yeux. La vie revient. Je sais que je suis vivante. Je vois la petite Aurore. Elle est malade, épuisée par la fièvre, les lèvres décolorées, les yeux hagards. Elle a soif. Elle n'a pas la force de descendre au ruisseau. Et personne ne veut y aller pour elle. Il ne faut pas qu'elle boive de cette eau malsaine. Elle est malade. Je la vois et je pense. Elle pourrait bien boire de cette eau, puisqu'elle va mourir. Chaque matin, elle se met près de moi. Elle espère que je lui laisserai quelques gouttes au fond de ma gamelle. Pourquoi lui donnerais-je de mon eau? Aussi bien, elle va mourir. elle attend. Ses yeux implorent et je ne la regarde pas. Je sens sur moi ses yeux de soif, la douleur à ses yeux quand je remets la gamelle à ma ceinture. La vie revient à moi et j'ai honte. Et chaque matin, je reste insensible à la supplication de son regard et de ses lèvres décolorées par la soif. Et chaque matin, j'ai honte après avoir bu.
Au travers de ces deux extraits, on vient de vivre le même moment, mais relaté de façon très différente. Donc d'un côté, on a l'objectivité administrative, où on explique, on témoigne, mais absolument sans aucun sentiment. Et de l'autre, on a l'intégration des émotions, de la culpabilité, des sentiments, et la psychologie de l'autrice. Et ce sont deux armes différentes pour parler de la même chose.
Pour ma part, je préfère le premier, le convoi du 24 janvier, notamment parce que justement cette absence de sentiment, elle crée du sentiment chez le lecteur, elle crée une sorte d'angoisse méthodique à chaque fois, une accumulation d'horreurs une par une, des horreurs véridiques, elles sont témoignées, elles sont vraiment... Et je pense que ça, c'est presque d'autant plus fort que... Ça démontre de l'ampleur du phénomène, de l'ampleur des atrocités, et c'est absolument effroyable.
Moi, au contraire, je pense que je suis plus sensible au deuxième. Premièrement, parce qu'il rend vraiment justice à ces personnes qui ont souffert, et que je trouve qu'on voit plus... On voit plus leur souffrance qu'eux, ils ont subi, et c'est pas forcément que notre senti qui rejaillit, c'est aussi le leur. Et ça leur rend, je trouve, plus justice en ce sens. De plus, je trouve que à travers ce deuxième texte, on va avoir aussi cette expression de la culpabilité, on va avoir aussi les émotions pour qu'on comprenne aussi tout le dilemme que ça a pu être pour la personne qui était là, on aurait pu se dire qu'on aurait peut-être voulu l'aider, qu'on aurait voulu être là pour elle, sauf que au travers de ce deuxième texte, on comprend qu'en fait c'était impossible, que c'était pas, on n'était pas juste spectateur qu'on n'a pas voulu faire quelque chose, c'était que on était dans l'incapacité de le faire. Et je trouve que en ça, ce deuxième texte est plus poignant pour moi.
Moi personnellement, j'ai trouvé quand même dans le deuxième extrait que Kadem nous a lu qu'il essaie déjà transparaître un peu du témoignage qu'elle allait ensuite faire dans aucun de nous ne reviendra. Et voilà, je trouvais que même si c'est censé être froid et sans aucune émotion, ça laissait déjà un peu imaginer qu'elle y reviendrait.
Moi, je suis plus d'accord avec Megan. Je suis plus sensible au deuxième texte parce que, en fait, on peut pas se mettre à sa place, mais on peut se dire... On peut se demander ce que nous, on aurait fait à sa place si on avait eu très soif et qu'on aurait vu quelqu'un à côté de nous qui lui aussi avait très soif. Et ce que je trouve intéressant dans la littérature concentrationnaire, c'est que les personnes qui écrivent souvent après, elles arrivent quand même à se rendre compte. Là, elle dit « j'ai honte », c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles n'ont pas le choix pour survivre, mais en même temps, elles ne sont pas fières de ce qu'elles sont obligées de faire pour survivre. Et je trouve que c'est des dilemmes auxquels on n'est pas confronté, enfin en tout cas pas à cette échelle, mais auxquels un jour peut-être on peut faire face.
Moi, j'ai préféré les premiers extraits que Adam il a lu parce que je trouve que le fait d'être factuel, de ne pas rentrer dans l'émotion, ça permet de je trouve que on apprend plus, parce qu'en fait, je trouve que l'émotion ça peut aussi, je suis d'accord qu'il faut de l'émotion. Maintenant, je trouve que l'émotion, ça peut altérer notre jugement et je trouve que c'est pas forcément toujours nécessaire. Enfin, Auschwitz, on sait que ça a été difficile, on sait que c'était très dur, mais je trouve que toujours aussi tourner autour de l'émotion, c'est un peu redondant au final et même, ça a peut-être au final un effet un peu négatif, pervers. Et donc, moi, je trouve que des fois aussi être factuel sur les faits, ne pas se laisser dans un roman ou un témoignage qui part trop dans l'émotion, c'est tout aussi efficace.
Pour rejoindre ton idée de factualité, Chloé, je pense que là-dessus, il y a eu énormément de documentaires photos, c'est-à-dire des albums photos prises dans les camps qui rejoignent également cette idée de factualité. C'est vraiment les faits, les un peu comme le film La vie est belle. Non, Nuit et brouillard, pardon, excusez-moi. C'est uniquement des images d'archives et là aussi, ça illustre bien l'horreur des camps, mais sans filtre. C'est directement ça, on est confronté... sans vis-à-vis, directement vis-à-vis et sans filtre. Et ça, c'est d'autant plus puissant.
On peut également voir ça dans Shoah de Klaus Lanzmann, où il prend des témoignages qu'il filme et qu'il accumule. Et il va pas y avoir de montage, il va pas y avoir de fiction. Il cherche même pas forcément à faire du lien entre les témoignages, juste il les met les uns à côté des autres. Et pendant ce film qui dure très longtemps, on a cette accumulation de témoignages qui... Il a laissé tous les silences, il a laissé toutes les hésitations, il a laissé tout ce qui est... Tout ce qui, toutes les preuves de l'affection que ça a fait aux personnes qui ont dû témoigner. Mais en ce sens, le témoignage est d'autant plus pur, même s'il est entrecoupé ou qu'il y a des silences, il est d'autant plus pur car il est réaliste et qu'il correspond réellement à une interview simple.
Donc, moi, je pense aussi que le fait de pas forcément... Enfin, que le narrateur n'exprime pas clairement ses émotions, ça laisse aussi la place aux émotions du lecteur. Parce que du coup, il n'est pas forcément dirigé à ce que le narrateur veut lui faire voir. Et du coup, il peut aussi... Donc, il y a aussi cette question d'impartialité, encore une fois, et d'interprétation de chacun, où personne ne voit la même chose. Et donc là, on laisse vraiment la place au lecteur à s'approprier sa vision à lui.
Pour revenir sur ce que disait Daphné tout à l'heure, on peut peut-être considérer que les deux œuvres de Charlotte Delbo font partie d'un tout au final, et qu'on a d'abord Le Convoi du 24 janvier, qui est, il s'est passé quelque chose d'énorme, de choquant, et on cherche à retransmettre ce côté béant, on fait tomber le lecteur entre les récits, pour qu'on soit frappé par l'austérité de ces actions, de cette période. Et ensuite... Une fois qu'on a pu exprimer ce premier traumatisme, on commence à transmettre l'émotion qui passait avec, à exprimer nos sentiments.
Honnêtement, je pense que pour élargir ton idée, Adem, je pense qu'on peut dire que toutes les œuvres de la littérature concentrationnaire, et même les films, et même tous les autres supports qui ont servi à exprimer cette idée, font partie d'un tout global dont le seul but était d'alléger les témoins, d'alléger les victimes et de témoigner et de nous faire nous-mêmes, enfin de nous partager ces atrocités afin qu'on soit au courant et qu'on puisse ne pas les perpétrer. Donc finalement, c'est un grand tout aussi dans lequel tout peut avoir sa place.
Quand tu parles justement d'autres moyens pour parler de ce sujet-là, on peut aussi parler du livre Yiddish Tango écrit par Mylène Mouton, où cette fois-ci, en fait, on va parler de ces camps, mais c'est de la pure fiction, enfin techniquement de la manière dont on le voit, parce qu'on voit ça à travers les yeux d'un adolescent. Cependant, on va le voir ça avec la musique, et ça va être la musique qui va faire en sorte que on va voir les problèmes qui se sont passés à ce moment-là. Comme par exemple dans le livre aussi, Le pianiste.
Écoutez.
Écoutez.
C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
Alors, puisqu'on commence justement à parler d'un tout et d'autres œuvres, on va peut-être commencer à aller vers les autres formes de littérature concentrationnaire, autres que le livre. Et on va commencer avec Maus.
Maus, juste pour rappel, c'est une BD. En fait, ce qui est assez spécifique à Maus, c'est que dedans, chaque personnage en fait est une souris. Les Allemands, du coup, ce sont des chats. Et du coup, il y a vraiment une idée d'animalisation de la Shoah. Tu veux rajouter quelque chose, Elisa ?
Oui, je voudrais rajouter que certes, les Juifs sont des souris, les Allemands des chats. Cependant, les Français sont des grenouilles, les Polonais sont des cochons. Donc chaque peuple, chaque peuple, chaque ethnie a sa propre animalisation. Et ça, justement, ça permet de bien distinguer chaque personnage. Et notamment, moi, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand les Juifs tentent de se déguiser, ils portent un masque. Vraiment, ils ont un masque. Par exemple, quand le protagoniste, le père donc de l'auteur, qui est le protagoniste principal du récit Enchâssé, mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans les camps de concentration, quand il va en Pologne et qu'il essaye de s'y cacher, il porte un masque de cochon, vraiment, alors qu'à l'origine, c'est une souris car il est juif.
Moi, je trouve que quand même une limite au fait que... tous les Juifs soient des souris, tous les Allemands soient des chats, ça, en fait, ça met un peu tout le monde dans le même panier. Enfin, il ne va pas y avoir de distinction entre les Juifs, de distinction entre les Allemands. Enfin, tous les Allemands n'étaient pas forcément nazis, tous les Allemands n'ont pas participé à la Shoah. Et en fait, je trouve qu'au final, de mettre... Après, c'est peut-être plus simple pour la lecture et il peut y avoir des avantages à vraiment mettre... Parce que après, ça fait quand même une BD très chargée si on multiplie trop les personnages. Mais je trouve qu'il y a quand même une idée de tout le monde est la même chose et il n'y a plus du tout d'individualité.
C'est vrai qu'on peut trouver un côté assez manichéen à cette histoire. Mais je trouve que ce côté de tout le monde, tous les Juifs sont des souris et tous les Allemands sont des chats, c'est aussi un peu le côté fataliste qu'on peut avoir dans Maus et même dans en fait, toute l'histoire concentrationnaire. C'était très dur pour les Juifs d'échapper, très peu ont vraiment pu s'échapper des camps ou ce genre de choses. Très peu en sont sortis vivants, les trois quarts sont décédés dans les camps et c'est une réalité. Les Allemands, de leur côté, ont usé de la force, ont usé de leur position d'appui, et même si ça peut paraître très blanc et noir, c'est quand même un peu ce qui s'est passé, donc je trouve que ça rend quand même justice, à savoir que, si je me souviens bien, il écrit l'histoire de son père, qui était lui-même juif en camp de concentration, ce qui fait qu'on ne peut pas lui reprocher une prise de distance trop importante, puisqu'il vient quand même d'un témoignage familial, et c'est son père, c'est très très proche, et ça lui a été rapporté de vive voix. Donc, même si ça peut paraître facile, il y a quand même une recherche qu'il ne faut pas négliger derrière.
Alors, deux choses. Premièrement, pour revenir sur le côté manichéen, certes, en apparence, tous les personnages sont identiques. Toutefois, le Vadek, donc, qui est le père donc, du dessinateur et de l'écrivain, il a été plusieurs fois trahi par des Juifs, des gens qui avaient l'apparence de souris, mais qui pourtant travaillaient en tant que collaborateurs avec les nazis. Donc déjà, ça rompt un peu avec le côté manichéen. Alors, je voulais rajouter qu'en effet, il a été... il est rapporté de vive voix, et d'ailleurs, ça, l'auteur, il en parle... Art Spiegelman, qui est le dessinateur et l'auteur, il en parle... ça le travaille beaucoup parce que oui, c'est rapporté de vive voix et en plus c'est son père. Mais son père, il correspond aux préjugés qu'on peut se faire d'un juif, c'est-à-dire qu'il est très avare. Pour la petite anecdote, le gaz, il est compris dans le prix du loyer et du coup, il laisse la gazinière allumée tout le temps pour pas avoir à payer d'allumettes. Donc vraiment, il est très, très avare, il est un peu misogyne aussi, il est très... très un peu raciste aussi. Et donc Daphné, tu voulais parler peut-être des dessins qui sont quand même très importants dans cette bande dessinée.
Ouais, c'est quelque chose d'assez... qui rend la lecture compliquée, je trouve. Et Chloé, toi, tu voulais ajouter quelque chose?
De ce que tu commences à dire, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que le fait que le trait soit très épais dans cette BD, ça alourdit en fait la lecture. Enfin, on se rend compte quand même... au final, du poids du récit aussi qui est transmis.
Je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai quand même bien aimé que ce soit sous forme de BD, parce que bah, déjà ça nous permet de mieux nous rendre compte, parce que les livres c'est bien, mais c'est notre imagination, alors que là c'est quand même un peu la représentation qu'on s'en fait, mais ça permet de quand même d'être mieux, d'avoir un peu un fil rouge dans le livre. Et le fait aussi que ce soit dessiné entièrement en noir et blanc, ça permet un peu de... bah, ça correspond en fait à l'époque, parce que bah, en 1945, la télévision c'était pas trop démocratisé, et donc finalement, noir et blanc, c'est des couleurs qui sont assez tristes, donc ça rend en fait assez... je pense, trouve que ça correspond très bien avec le temps, enfin la période, et avec la BD en elle-même, l'histoire.
Oui, ça va un peu résumer ce que tu viens de dire, mais nous on a trouvé que, en effet, le style de dessin au début c'est un petit peu difficile, on se heurte aux cases, mais ensuite ça permet simplement de créer une ambiance et de mieux retranscrire. On a remarqué qu'il n'y a pas de nuance de gris, c'est juste des traits noirs ou blancs. Donc voilà, ça permet. C'est un univers propre terme, mais ça reste un univers et c'est pas forcément juste difficile à lire.
Donc oui, j'étais totalement d'accord avec Adem. Et après, là, on a parlé des bandes dessinées, mais on a aussi également abordé la notion, donc le conte. On a aussi abordé l'existence de certains films. Donc il y a vraiment absolument tout le panel des supports possibles et inimaginables ont été utilisés, même la photo, etc. Donc je pense que là-dessus, on a vraiment illustré l'existence de beaucoup, beaucoup de choses. Mais maintenant, Je pense que la source, elle commence un peu à se tarir. Ça fait vraiment... Enfin, je pense pas que ça soit tarissable, mais les gens qui ont vécu ces atrocités commencent peu à peu à décéder. Ça fait... Il y en a même plus beaucoup qui sont encore en vie. Et donc, ceux qui restent, ce sont soit leurs descendants, soit des gens qui cherchent à faire du profit, malheureusement. Et ça, on le voit aujourd'hui avec... Avec notamment toutes les sagas, la sage-femme d'Auschwitz, la bibliothécaire d'Auschwitz, je crois qu'il y a même le tatoueur d'Auschwitz. Hein, vraiment, il y a plein de choses comme ça. Et honnêtement, je trouve ça un petit peu décevant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je ne considère pas que tout ce qui a pu être écrit sur Auschwitz, qui n'est pas de la part de personnes qui l'ont vécu ou qui ont eu des témoignages, sont forcément des choses qui ont pu être faites à profit, dans le sens où on écrit souvent, il y a beaucoup d'auteurs qui ne vivent pas forcément ce qu'ils écrivent, mais ils l'écrivent au travers de recherches. Donc je considère que ce n'est pas forcément quelque chose qui est là pour faire de l'argent. Néanmoins, il reste quand même l'idée que c'est un sujet qui est hyper tragique qui a eu de très lourdes conséquences en Europe et dans le monde, et que c'est pas un sujet qu'on peut se permettre d'utiliser non plus à la légère. Je considère que, par exemple, un auteur peut écrire quelques livres dessus, c'est pas la question, mais il faut pas que ça soit banalisé, il faut pas que ça devienne un effet de mode, il faut pas qu'on commence à avoir des rayons de livres concentrationnaires, parce que c'est pas le but, ça doit rester quelque chose comme un moment intime dans cette histoire qui a été très tragique. Il faut que ça reste un moment un peu précieux de compréhension du monde et de l'atrocité que peuvent faire l'être humain en général. Et c'est ça, faut pas que ça soit vendu, il faut pas que ce soit une histoire qui fasse vendre, mais avec des recherches approfondies, le sujet peut être exploité, même pour des gens qui écriront dans 20 ans, dans 30 ans. S'ils ont fait les recherches qui s'imposent à un tel sujet, alors pour moi, c'est légitime.
Moi, je pense que ça peut permettre aussi d'intéresser un plus grand nombre de personnes. Par exemple, avec les pures fictions comme La sage-femme d'Auschwitz, ça peut intéresser un public peut-être un peu plus jeune. Enfin, je sais que moi, les films comme ça, j'ai un peu du mal à les regarder. Enfin, parce que ça peut être... triste ou très violent, enfin plus ou moins violent. Mais ensuite, pour les livres, ça peut permettre, en racontant d'abord une histoire fictionnelle peut-être plus adaptée à un public un petit peu plus jeune, ensuite, un peu plus tard, leur faire lire Primo Levi, c'est-à-dire des livres vraiment qui racontent véritablement ce qui s'est passé dans les camps. Donc passer par la fiction pour ensuite pouvoir venir aux mémoires pures.
Moi, je trouve qu'il y a quand même un risque à ce que la fiction prenne... dessus, enfin les fictions actuelles prennent le dessus sur ce qui a pu être écrit par les gens qui avaient vécu la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, même sans de manière beaucoup plus proche. Et en fait, après, oui, c'est sûr que les gens qui ont écrit toute la deuxième moitié du XXe siècle, ils vont décéder, ils seront plus là. Par contre, Auschwitz, et la Shoah, ça ne doit pas tomber dans l'oubli. Et donc, en fait, c'est vraiment une question de comment on va renouveler aussi la littérature concentrationnaire, parce qu'il y a quand même un risque que plus personne n'écrit dessus, ça va tomber aussi dans l'oubli, ça va devenir les vieux bouquins du placard. Donc voilà, il y a ce risque aussi, je trouve.
Après, je peux comprendre ce que tu veux dire, Elisa, dans le sens où tu veux dire qu'ils veulent faire profit. Mais après, souvent, même si certaines personnes ont réécrit dessus sans spécialement l'avoir vécu, par exemple Lucy Adlington qui a écrit Le Ruban Rouge, ils le refont à travers de fictions, des fois également pour l'adapter pour des personnes beaucoup plus jeunes avec qui ils veulent prendre, on va dire à peu près, leur montrer la réalité sans les accabler par la souffrance des personnes l'ayant vécu et en ayant leur montrer cette chose en fait.
Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Donc en conclusion, fiction et témoignage sont tous deux légitimes pour raconter une période. Ils ont leurs avantages et leurs défauts. Mais tant que l'intention derrière reste seulement d'exprimer quelque chose et pas de faire de l'argent ou d'utiliser ce thème à des fins moins morales, ça reste légitime.
Marque-page, l'émission qui interroge notre rapport au livre et à la lecture.
On remercie toute l'équipe, notamment du Club Lecture qui a participé à cette émission. Et on n'oublie évidemment pas les instances supérieures et la technique. Merci à tous.
Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM
et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.